Sam Travail, la chronique où le travail se raconte et se comprend.
Et si votre boulot racontait l'histoire d'un monde qui change ? Bienvenue dans la chronique de Sam Travail, un espace où les récits des travailleurs et des travailleuses deviennent des miroirs de nos mutations collectives. Pendant 15 minutes, une fois par mois, on entre dans le vécu du travail. Je vous livre des récits que j'ai collectés, un peu de théorie pour éclairer tout ça, et je vous propose d'écouter, de comprendre et peut-être parfois de vous reconnaître dans ces histoires où le quotidien du travail croise les grandes transformations de notre époque. Pour cette toute dernière chronique, je vous propose de retrouver Anne, qui le mois dernier nous avait expliqué en quoi consiste le métier de psychologue clinicienne et comment elle l'incarne. On la retrouve aujourd'hui confrontée à l'évaluation de son travail au sein d'un hôpital où elle a travaillé. Il faut noter que les hôpitaux ont connu une grosse réforme de leur financement il y a une vingtaine d'années. Auparavant, ils percevaient une dotation globale pour fonctionner et en 2004, c'est le système de la tarification à l'activité, qu'on appelle aussi T2A, qui est arrivé. En gros, l'hôpital va percevoir une rémunération en fonction du type de pathologie des patients accueillis et du nombre d'actes techniques pratiqués. L'objectif de cette réforme, issue des théories néolibérales, c'est d'introduire dans le secteur public des logiques de gestion propres au secteur privé. Cette approche, nous dit-on, encourage une gestion axée sur l'efficience et la performance économique. Écoutons Anne. Quand j'ai travaillé en hôpital, j'ai bien compris tout de suite que ce qu'on me demandait, c'était d'avoir des stats et des bilans d'activité. Je devais dire combien de gens j'avais vus, combien de familles. Parmi les gens et les familles, est-ce que c'était des conjoints, des enfants, des parents, des femmes, des hommes? Quel âge, dans quel service? Ce qui n'avait rien à voir avec mon travail en réalité, ça n'avait aucun sens. Mon travail, c'est vraiment un monde très différent des logiques néolibérales dans lesquelles on est actuellement. C'est deux mondes qui ne peuvent pas se rencontrer, parce que les gens que je rencontre, ce n'est pas des objets de soins. Avec la tarification à l'acte, en fait, la personne, elle est rentable ou pas pour l'hôpital. T'as un diabète, t'es rentable. En gros, il y a des grilles qui vont indiquer que selon les pathologies, tu vas garder les personnes tant de temps dans le service. Tu vas leur faire tel et tel type de soins, etc., etc. Mais le bien-être psychique, ça ne rentre pas du tout dans ce logiciel-là. Avec la tarification à l'acte et toute cette politique de rentabilisation du soin, évidemment que les psychologues cliniciens, c'est assez difficile de quantifier le résultat de leur travail, puisque déjà ça prend du temps entre le moment où il y a des entretiens et le moment où il va y avoir des effets. Et puis on ne sait jamais dans le travail qu'on fait avec quelqu'un quels sont les fruits que ça va engendrer chez cette personne. Dans la mesure où c'est un travail dans l'intersubjectivité, on ne peut pas quantifier. Mon travail il consiste à proposer un espace aux gens où ils peuvent être vraiment accueillis, en dehors de tout jugement, et par quelqu'un qui peut les entendre, les comprendre. Quelqu'un qui va faire l'effort d'accueillir la personne là où elle est et l'aider à formuler quelque chose de ce qu'elle est. Alors quantifier ça dans des grilles d'actes, c'est un peu compliqué. Mais alors, pourquoi ces structures, elles recrutent quand même des psys ? Alors, on dit souvent que les psychologues, ils représentent la bonne conscience des institutions. On a le fantasme que le psychologue est là pour un mieux-être. En gros, avoir un psychologue, ça veut dire qu'on est à l'écoute. Si les gens vont pas bien, on a quelqu'un qui va pouvoir écouter leurs émotions et être un genre de réceptacle. On se représente le psychologue comme étant quelqu'un de consolant. Quand je rencontre quelqu'un qui va mal dans un service d'hospitalisation, je rencontre vraiment cette personne. C'est-à-dire que je vais m'intéresser à comment elle est arrivée là, en quoi c'est difficile pour elle, comment ça vient interrompre sa vie et quel sens elle y trouve. Souvent, j'étais appelée par des soignants. « Est-ce que tu peux aller voir Madame Machin? Elle est très déprimée, elle dit qu'elle a envie de mourir. » Eh bien, des fois, c'est normal qu'elle soit très déprimée et qu'elle ait envie de mourir. Donc, je ne vais pas aller faire taire ça. Et c'est vrai qu'ils ne savent pas quoi faire avec ça. Qu'est-ce qu'on fait avec cette envie de mourir de Madame Machin alors que nous, on est soignants, nous, on nous demande de mettre un pansement sur la plaie. Alors je ne veux pas du tout dénigrer ça, mais le soin, c'est ça. Il y a une souffrance, on est là pour la réduire. Et moi, non. Il y a une souffrance, je suis là pour proposer de l'entendre et de l'accueillir. j'ai mis longtemps à me rendre compte que le temps que j'avais auprès des patients, c'est un luxe. C'est-à-dire que la plupart des soignants aimeraient avoir ce temps et qu'ils l'ont pas. C'est sûr que je suis à une drôle de place quand je suis en institution parce que justement, ma place, elle échappe à ce système de production de soins. Et cette machine, je la trouve écrasante parce qu'elle est de plus en plus décidée par des gens qui ne savent rien du soin. Il y a vraiment cet écart entre les décideurs et les gens qui travaillent. Et les gens qui travaillent, c'est ceux qui sont dans la clinique, qui sont au chevet des gens, qui essayent de trouver des solutions. Mais ce n'est pas eux qui décident. Je vois les soignants qui ont des cadences très dures. Et du coup, ils sont tellement pris dans leurs soins qu'ils n'ont plus le temps de voir qui ils soignent. Avec le temps, je suis devenue de plus en plus tolérante sur certains comportements qui, au début de ma carrière, me heurtaient profondément. Par exemple, des comportements d'infantilisation des personnes, ce genre de choses, ou pas frapper à la porte quand on rentre dans une chambre. En fait, les soignants, ils n'ont même plus le temps de se poser ces questions-là. En 20 ans, j'ai pu voir un appauvrissement qui, à mes yeux, est vraiment très inquiétant. Ça me fait un peu rire parce que sinon ça me ferait pleurer, mais à chaque fois je me dis « bon, mais là, ça peut pas être pire ». Et en fait, si. On se rend compte que les décideurs aujourd'hui sont des formes de toute puissance qui ne prennent plus du tout en compte le réel. Et quand soigner apporte de l'argent, c'est pas du tout la même chose que quand soigner apporte du bien-être aux gens. Mon travail, c'est d'offrir un espace où les gens peuvent être. Et ben du coup, ça questionne le soin qu'ils reçoivent. Quel sens ça a ? Par exemple, une maladie grave comme le cancer, quand quelqu'un apprend qu'il a une maladie comme ça, ça vient chambouler toute sa vie. Il y a quand même la menace d'une maladie grave, avec des soins qui risquent de la rendre aussi malade que la maladie elle-même. Donc ça vient faire jouer des choses très compliquées, et la maladie, et le soin. C'est des choses qui ont besoin de se penser pour les gens. Il y a des gens parfois qui décident de ne pas soigner, par exemple. Et c'est important qu'ils puissent avoir ce choix-là, et que ce choix-là soit éclairé. Sauf qu'on est souvent dans des dynamiques de protocole où on vient faire rentrer les avis des patients comme des éléments purement secondaires. C'est en ça que le fait de vivre les patients comme des sujets, c'est très différent que de les vivre comme des objets de soins. Et c'est là où ça coince en fait, c'est-à-dire que moi je suis souvent là pour entendre la personne en tant que sujet, là où j'ai des collègues qui ont les moyens de les voir que comme des objets de soins. Et du coup on va souvent pathologiser les gens en disant « cette personne elle est difficile à soigner ». Mais souvent les gens qui sont difficiles à soigner, c'est ceux qui ne veulent pas se laisser faire. Et s'ils ne veulent pas se laisser faire, c'est pour des raisons qui leur appartiennent et qui souvent sont tout à fait légitimes. En tout cas, de prendre le temps de comprendre, ça permet aussi quelquefois de décoincer des situations. Mais ce temps-là, il ne peut pas être quantifié, il ne peut pas être borné, ou très difficilement. No te va mien ruelo, mien rue mien retourne se. Lon lon ya ova mi ruelo, non viva mien ilo. Va non viva retourne se, e ha lon lon non vien, non viva roto agbe ya wo, non viva. Roto agbe yowo no viva bien ilo agbe le tekwa o bien ila bien ilo vivira na mesia me don 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 va no te va mi mia roto nace no te va mia duelo Mia rue mia roto nasce, non lo ya uva mi ruelo, non viva mia ilo. Va, non viva roto ne asse, e ha non lo non via, non viva roto agwe yowo, non viva roto agwe yowo, non viva mia ilo. Appelle tes quoi, bien il a, bien il a, vivida. Non, mais si à me, non, non, va, non, 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 Mena, no coco, cudo vivi, no
amene babila yu Chichwe muni amene kabeta wawase Jo Vamilo Vamila Akwe ya nyomi jubalo
Lorsque j'ai rencontré Anne, je lui ai demandé quelle était son intention en m'apportant son témoignage. Et je reprends ses mots, elle m'a dit qu'il s'agissait surtout de rendre compte de la valeur de son métier. Le dictionnaire Robert définit l'évaluation comme l'action de déterminer la valeur ou l'importance d'une chose. Alors comment évaluer un travail ? Christophe Dejour, dans son livre « L'évaluation du travail à l'épreuve du réel », pose d'abord la question suivante. Qu'est-ce que travailler ? Il rappelle la distinction fondamentale entre le travail qui est prescrit, c'est-à-dire les consignes de travail, les procédures, les protocoles, et le travail réel. Il explique que même si l'organisation du travail est rigoureuse, les consignes et les procédures claires, il est impossible d'atteindre la qualité en respectant uniquement ces prescriptions. Pourquoi ? Parce que les situations de travail rencontrent toujours des événements inattendus, provenant aussi bien des machines que des autres travailleurs, de la hiérarchie, des patients. Il y a toujours un décalage entre le prescrit et la réalité concrète de la situation. Et travailler, c'est justement combler cet écart entre le prescrit et le réel. Et ce qu'il faut mettre en œuvre pour combler cet écart ne peut pas être prévu à l'avance. Le chemin à parcourir entre le prescrit et le réel doit être à chaque fois inventé ou découvert par le sujet qui travaille. Le travail se définit comme ce que le sujet doit ajouter aux prescriptions pour pouvoir atteindre les objectifs qui lui sont assignés. C'est ce qu'il doit ajouter de lui-même pour faire face à ce qui ne fonctionne pas lorsqu'il s'en tient scrupuleusement à l'exécution des prescriptions. Dejour explique ainsi que travailler suppose d'en passer par des chemins qui s'écartent des prescriptions et que bien travailler, c'est toujours commettre des infractions à la règle. Et si on veut vraiment évaluer le travail, il faudrait parvenir à rendre visible toute cette partie immergée de l'iceberg. Si on reprend la situation de Anne, on mesure combien la partie immergée de l'iceberg est énorme. Qu'est-ce qui permet d'évaluer le travail du psychologue auprès d'un patient à l'hôpital et comment le faire rentrer dans les cases préétablies d'un système destiné en réalité à gérer un budget. Je termine cet entretien en lui demandant comment on fait pour tenir alors dans ce système. Je considère que mon travail doit être avant tout qualitatif et que pour le faire de façon qualitative, il faut qu'on me fasse confiance. Pour me faire confiance, il faut qu'on sache ce que je fais comme travail et comment je le mène. Il faut que moi-même, j'ai des interlocuteurs dans l'institution pour échanger. Mais c'est des choses qui sont très difficiles parce que les logiques ne sont plus du tout celles-là aujourd'hui. Et moi, je ne veux surtout pas être le bras armé d'une politique publique avec laquelle je ne peux pas être en accord. Mon gros dilemme, il est là. Comme je travaille pour les patients, je me dis qu'il faut y être. Mais en fait, je me retrouve prise en étau par des injonctions contradictoires entre des directives et les besoins réels des gens. Et le sens de mon travail, le sens profond de mon travail. J'arrive à la fin à un moment où rester m'obligerait à faire des sacrifices sur des choses qui sont trop importantes sur le plan éthique pour moi. C'est souvent comme ça que je quitte l'institution. Mais du coup, c'est souvent dans des moments de crise où il y a une confrontation impossible entre mon éthique et ce qui m'est demandé. Et c'est assez difficile, parce que c'est comme s'il y avait quelque chose d'un peu voué à l'échec. Anne a effectivement fini par quitter cet hôpital. Alors, ce n'est pas une conclusion très optimiste pour ma dernière chronique, mais compte tenu de l'état des hôpitaux aujourd'hui, c'est un peu difficile de rester positive. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute de ces chroniques. J'espère qu'elles vous ont plu. Et surtout, n'oubliez pas, le travail est un sport collectif.